9, 8, 7, 6, 5.
Very happy to see you.
Nous sommes sur France Culture pour parler de dernières nouvelles de l'univers.
Okay, okay, go, came the drive.
Dernière nouvelle de l'univers, André Brahi.
Aujourd'hui, je vous convie à une promenade. À une promenade dans le système solaire. Et cette promenade, finalement, c'est probablement une des plus belles aventures de l'histoire humaine. Aventure qui a commencé en fin de XXe siècle et qui continue maintenant au XXIe siècle. Je vous ai expliqué que si nous étions sur Terre, si la Terre existait, si la vie était apparue sur Terre, c'était grâce à Jupiter, cette planète géante. Ça me fait du coup penser à Victor Hugo qui disait « Jupiter a créé les hommes dans un excès de misanthropie ». Vous voyez, il avait une vision en quelque sorte. Alors revenons à notre promenade. Qu'y a-t-il dans le système solaire? Des planètes, des satellites, des astéroïdes, des comètes, de la poussière, beaucoup de choses. Et en fait, tout a changé dans notre vision depuis quelques années, parce que jusqu'à présent, sur Terre, quand nous regardons le ciel, nous voyons des points de lumière dans le ciel. Et ces points de lumière, pendant des millénaires, on s'est demandé comment ils bougeaient, pourquoi ils bougeaient, selon quelles lois. Et on a mis beaucoup de temps à comprendre que la Terre n'était pas immobile au centre de l'univers. Eh bien, grâce à l'exploration spatiale, grâce au fait qu'on a envoyé des vaisseaux là-bas sur place, ces points de lumière sont devenus des mondes à part entière, avec des paysages, des volcans, des vallées, des montagnes, des plateaux. D'ailleurs, si vous voulez, non pas vous-même faire fortune, mais si vous voulez que vos enfants fassent fortune, je vous conseille d'ouvrir une agence de voyage interplanétaire. Eh bien, les voyages dans le futur seront extraordinaires. Ce n'est pas pour tout de suite, mais vous êtes assuré que votre descendance sera très très riche dans le futur. Et finalement, cette aventure d'exploration des planètes découvertes fait penser à l'aventure qui s'était déroulée quelques siècles plus tôt, quand Christophe Colomb, Magellan, Captain Cook, Bougainville partaient à la découverte de la Terre. À l'époque, ça paraissait doudou farfelu. Quand la reine Isabelle a donné quelque argent à Christophe Colomb, on se dit « mais à quoi ça sert ?» On cherchait la route des Indes. Quand le Captain Cook partait détruire le Pacifique, à quoi ça sert? Quand Louis XVI envoyait de Bougainville se promener, pourquoi? Est-ce que c'est un caprice d'un roi? Pas du tout. Ça a totalement changé notre histoire. Imaginez qu'aujourd'hui, nous ne connaissions ni l'Amérique, ni l'Australie, ni l'Afrique. Notre histoire quotidienne ne serait pas du tout la même. Eh bien, la nouvelle étape est en train d'être franchie. La nouvelle frontière n'est plus à l'ouest. La nouvelle frontière est dans l'espace. Et si je devais paraphraser quelqu'un, je dirais que le 21e siècle sera spatial ou ne sera pas. Et donc, cette aventure, il se trouve que j'ai eu beaucoup de chance, celle d'y participer. En particulier, j'étais associé aux équipes scientifiques de la mission Voyager, qui, dans les années 1980, a exploré les confins du système solaire, et la mission Cassini, qui, depuis 1997, a été lancée pour explorer le monde de Saturne. Et cette mission va encore durer jusqu'en 2017. Alors, ce que je vous propose, c'est de raconter un peu cette histoire. Je ne vais pas vous décrire tout le système solaire, ça serait beaucoup trop long. Et je pense qu'une cinquantaine d'heures sur France Culture ne me permettrait de faire qu'un résumé de ce qu'on a trouvé. Dites-vous que chaque fois que quelqu'un explore un morceau de Terre, un petit coin de la Terre, eh bien, il fait une conférence, il fait un film, il vous le raconte, on en parle longuement. Eh bien, des objets, des astres comme la Terre, nous en avons plusieurs centaines à portée de la main, et chacun est fort intéressant et divers et varié, etc. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est bien gentil cette histoire, mais pourquoi dépenser des milliards d'euros pour aller voir ces planètes? Occupons-nous des problèmes sur Terre, nous avons d'autres soucis, etc. Eh bien, je veux vous dire non. Si nous voulons connaître la Terre, si nous voulons savoir si notre avenir est rose ou triste, si nous voulons savoir si la pollution est une menace grave, si nous voulons savoir si la Terre va se réchauffer ou se refroidir, si nous voulons savoir quel sera notre futur, eh bien, il faut aller voir les autres planètes. Pourquoi? Parce que quand on veut comprendre un objet, l'approche scientifique consiste à expérimenter sur lui. Le physicien, le chimiste dans son laboratoire, eh bien, il chauffe, il refroidit, il coupe en deux, il bombarde, il tord, etc. Puis il en tire des lois qui embêtent une série d'étudiants après. Mais enfin, ceux qui réussissent bien, ils ont meilleur salaire. Eh bien, pour la Terre, on fait la même chose. On devrait la couper en deux, la secouer, la bombarder, changer sa composition, la réchauffer, la refroidir, etc. Bon, heureusement pour nous, on ne sait pas faire ça. Heureusement, parce qu'il y a peut-être qui serait assez fou pour le faire. Mais j'ai envie de vous dire, ce n'est pas la peine. En allant se promener d'une planète à une autre, vous envoyez une qui est plus grosse, une qui est plus petite, vous en envoyez une qui est plus chaude et une autre qui est plus froide, vous envoyez une qui est plus dense et une autre qui est moins dense, vous envoyez une qui a une composition d'atmosphère différente de sa voisine, etc. Et vous comprenez immédiatement, par comparaison, le rôle de chacun des facteurs physiques, que sont la température, la pression, la densité, etc. Et j'ai envie de donner une image terrestre, un petit peu vulgaire, je dirais, quand dans la vie vous avez un problème, c'est pas, je parle vulgairement, en restant le nez au ras des pâquerettes que vous le résolvez, c'est en prenant du recul. Eh bien, prendre du recul pour la Terre, c'est aller dans l'espace. Et je vais donner juste un exemple. Nous venons de découvrir, il y a quelques mois, dans le pôle sud de Saturne, un cyclone épouvantable. Ce cyclone, les vents soufflent à 600 km/h sur les parois. Heureusement pour nous, sur Terre, les vents des cyclones ne soufflent pas à 600 km/h, sinon les dégâts seraient beaucoup plus considérables. Eh bien, quelles sont les conséquences? C'est que les gens sur Terre qui étudient ce type de phénomène, ils vont, tester leur modèle dans ces conditions extrêmes, que sont ces cyclones avec des vents à 600 km à l'heure. Eh bien, ceci a été fait, et nos collègues qui travaillent là-dessus ont amélioré leur modèle terrestre en testant le modèle dans des conditions extrêmes. De la même manière qu'un industriel va tester son produit dans des conditions extrêmes, savoir s'il résiste. Vous savez, on ne fait pas subir aux passagers d'un avion ce qu'on fait subir à l'avion quand on le teste. Eh bien, c'est la même chose. Autrement dit, vous avez compris qu'explorer la Terre, c'est mieux comprendre l'espace. Et je vais plus loin. Nous avons un souci de matière première. Nous demandons si du point de vue de l'énergie, on ne va pas être limité. Nous demandons que de quoi sera fait demain. Eh bien, je peux vous dire que demain, on n'ira pas gratter le sol à grand renfort d'énergie pour extraire du minerai de fer, pour séparer aussi à grand renfort d'énergie le fer de la gangue qui l'entoure. On ira tout simplement dans l'espace ramasser un astéroïde ou des corps semblables où vous avez du fer du nickel parfaitement pur. Autrement dit, la matière première de demain, elle est dans l'espace. Et les Chinois l'ont bien compris, qui commencent à se promener sur la Lune, qui ont beaucoup plus de problèmes que nous pour nourrir la population, ils ont compris que demain, eh bien, il y a des sources importantes de matières premières. Et nous, scientifiques, nous nous battons pour que ces astres restent le bien de tout le monde et ne soient pas colonisés par un pays plutôt qu'un autre. Un peu comme l'Antarctique doit rester un bien commun. Donc vous voyez que c'est l'avenir. Et en même temps, je dirais, si c'est l'avenir de la matière première de demain, c'est l'industrie d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand vous dépensez quelques milliards d'euros pour construire une sonde, qu'est-ce que vous faites? Ce n'est pas des milliards d'euros que vous mettez dans la poche des astronomes, hein, même si ces gens ont un salaire astronomique. Eh bien, ça veut dire que ces milliards d'euros, vous le donnez à des industriels à qui vous demandez de construire un composant de la sonde, lequel composant doit être d'une fiabilité à toute épreuve. Il n'y a pas question, quand vous prenez du côté de Saturne, qu'il y ait une soudure qui lâche, sinon la mission est perdue. Il n'y a pas de garagiste là-bas pour réparer. Autrement dit, l'industriel auquel vous allez donner quelques dizaines ou quelques centaines de millions d'euros pour vous faire un produit parfait devient le premier de son marché. Alors, qu'avons-nous trouvé? Alors d'abord, il y a un plaisir extraordinaire. Moi, j'ai eu la chance d'être recruté dans l'équipe d'imagerie de la sonde Voyager. C'est une sonde qui a été conçue en 1966, à l'époque où c'était un peu l'âge d'or. Les chefs d'État qui avaient connu la Seconde Guerre mondiale poussaient la science. Kennedy avait dit « je veux la Lune ». Et en gros, je ne dis pas que les crédits étaient limités, mais on avait beaucoup de moyens pour faire de la recherche. Et donc, cette idée de faire une mission que les Américains avaient appelée le Grand Tour en français, avec un G majuscule et un T majuscule, pour aller explorer Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, etc., était née en 1966. Hélas, la génération des hommes politiques qui a pris le pouvoir en 1970, qu'il s'agisse des États-Unis, de l'Union soviétique, de la France, de l'Angleterre, elle n'avait pas connu la Seconde Guerre mondiale et a coupé les crédits de la recherche. Brejnev a coupé les crédits de Khrouchtchev, Nixon a coupé les crédits de Kennedy, Madame Thatcher un peu plus tard a coupé les crédits de ses prédécesseurs, Pompidou a coupé les crédits de De Gaulle, etc. Résultat, eh bien, les crédits pour cette mission du Grand Tour ont été divisés par un facteur 30. Là où on avait 30 millions d'euros ou de dollars, on n'a plus qu'un million. Alors nous, scientifiques, si on n'est pas content d'une science gouvernementale, on peut faire une manifestation, mais on n'est pas assez nombreux pour barrer les Champs-Élysées. Alors on a pris d'autres formes de lutte, on a accepté cette réduction de crédit, on a réussi à construire une sonde, on s'est dit « on va juste voir Jupiter et Saturne ». Mais comme la chance était avec nous, et que dans les années 80, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune étaient un petit peu dans la même direction, pas alignés comme certains l'ont dit, pas du tout, dans la même direction. Je veux dire, si vous voulez aller visiter Clermont-Ferrand, Avignon, Marseille et Nice, c'est la même direction. Alors si vous voulez aller à Strasbourg, Brest, Lille et Toulouse, c'est pas la même direction. Et bien, profitant de cela, nous avons dit « non, on s'arrêtera à Saturne », nous avons continué la mission. Et donc, ça a été un moment merveilleux, où on a visité successivement ces quatre planètes dans les années 80. Et ensuite, nous avons dit, bien, ça serait bien d'y retourner pour tourner autour, parce que c'est bien beau de survoler un objet à à des dizaines, quand ce n'est pas des vingtaines de kilomètres par seconde. C'est-à-dire beaucoup plus vite qu'une balle de fusil. On prend vite quelques photos, quelques spectres, etc. Il est bien d'y retourner pour tourner autour et pour l'étudier plus en détail. Et ça, c'est la mission Cassini, à laquelle j'ai eu le bonheur de participer, à laquelle je continue à participer, puisque la mission, elle est en jeu. Alors maintenant, essayons de faire un petit inventaire. L'inventaire, c'est au 19e siècle, on pensait que la Terre était isolée dans l'espace, se déplaçant indépendamment de tout le reste. Cette vision est totalement dépassée et totalement fausse. Le système solaire, c'est un ensemble de beaucoup de choses. Et si je devais résumer le système solaire en deux mots, je dirais le mot diversité et le mot richesse. C'est très riche, c'est très divers. Il y a des planètes, il y en a 8, pas plus, mais pas moins. Il y a des astéroïdes, il y a des comètes, il y a de la poussière. Il y a du plasma. Un plasma, c'est un milieu dans lequel les électrons et les noyaux sont séparés, les charges positives et négatives sont séparées. Et ce qui est surtout très important, c'est que tous ces corps sont en interaction permanente. En permanence, la Terre est bombardée par ce qu'on appelle les rayons cosmiques, c'est-à-dire des particules chargées. Ce sont des noyaux d'hélium, des noyaux d'hydrogène, des électrons qui bombardent la Terre, qui arrivent à des dizaines ou des centaines de kilomètres par seconde. Mais heureusement pour nous, on a un petit bouclier qui nous protège. Le champ éthique de la Terre crée un espèce de bouclier qui fait que sinon, on serait mort. Et non seulement il y a ce bombardement par un plasma, mais il y a là des poussières, des astéroïdes qui se cognent mutuellement, des comètes qui bombardent la Terre sans arrêt. Seulement comme cette histoire dure 4 milliards d'années, la vie d'un homme n'est rien au milieu de tout ça. Nous, on voit ce bombardement, on en voit la trace, on en voit la cicatrice, mais on ne voit pas le film dans son ensemble. Il y a aussi des interactions gravitationnelles. Par exemple, le climat sur Terre. Vous savez bien, quand vous allez en Dordogne, par exemple, qu'à une certaine époque, il y a eu des mammouths, et à une autre époque, il y a eu des lions. Ben, ces animaux ne vivent pas avec le même climat. Ça veut dire qu'à une époque où la Dordogne est découverte de glace, et à une autre époque où la Dordogne était très chaude. Pourquoi ? Eh bien, parce que les planètes influencent la Terre. Je veux dire par là que Jupiter et Saturne perturbent la direction de l'axe de rotation de la Terre, et que du coup, ça fait basculer l'axe de rotation de la Terre. Et ce basculement, eh bien, veut dire quand on est très incliné par, comment dirais-je, l'écart entre les saisons est énorme. Il fait très froid l'hiver, très chaud l'été, et quand on est peu incliné, les saisons, l'été et l'hiver se ressemblent beaucoup. Heureusement pour nous, nous avons la Lune qui nous stabilise. Un petit peu comme un funambule qui va marcher sur un fil. Vous voyez, un balancier. Si le funambule marche sans balancier, il tombe, il ne peut pas traverser. Alors qu'avec son balancier, il s'équilibre. Eh bien, la Lune nous équilibre, donc amortit les perturbations de Jupiter et de Saturne et des planètes géantes en général. L'autre point, c'est le Soleil. Contrairement à ce qu'on dit, je vous en reparlerai un petit peu plus tard, le Soleil n'a pas une chaleur constante. Elle varie, cette chaleur. En plus, il y a des orages solaires, en plus, il y a des rayons cosmiques qui bombardent. Ceci joue un rôle important sur l'atmosphère, sur la manière dont la nucléation des nuages se fait, etc. Tout ceci change le climat. Donc, en permanence, nous sommes influencés par l'extérieur, influencés par le bombardement par des corps physiques qui heurtent le sol, influencés par des particules qui heurtent l'atmosphère de la Terre, influencés par des interactions gravitationnelles. Autrement dit, ce n'est plus un corps qui est dans l'espace. Et je crois que si vous voulez savoir qui nous sommes, où nous sommes et dans quel contexte on est, on se doit de connaître le système solaire. Et enfin, depuis 6000 ans, quand on s'est posé la question, nous sommes la génération qui a la chance d'avoir fait ce voyage. Alors maintenant, les planètes, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, quand vous regardez le ciel, tous les objets du ciel paraissent immobiles les uns par rapport aux autres. Ce sont les étoiles, la Voie lactée, etc. Et dans ce ciel, il y a 7 vagabonds. En grec, un vagabond, ça se dit planète. Et les 7 vagabonds qu'on voit dans le ciel, c'est le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Et les Grecs ont appelé planètes ces vagabonds du ciel. Et ils ont fait toute une mythologie à ce sujet pour essayer de comprendre ce qui se passait, pour essayer de l'expliquer, ils l'ont étudié scientifiquement, etc. Alors nous savons aujourd'hui que le Soleil n'est pas une planète. Nous savons aujourd'hui que la Lune n'est pas une planète. Nous savons aujourd'hui que la Terre est une planète, alors qu'à l'époque, c'était un objet immobile au centre. Mais vous voyez combien ce nombre 7 est devenu magique. On vous parle des 7 merveilles du monde. On divise le temps en semaines. Chaque semaine a 7 jours. C'est à cause de ça. C'est pour ça qu'il y a 7 jours. Et chaque jour a un nom de planète. Lundi, c'est le jour de la Lune. Mardi, c'est le jour de Mars. Samedi, c'est le jour de Saturne. Et dimanche, Sunday en anglais, c'est le jour du Soleil. Donc ce nombre 7 est devenu un petit peu magique puisque c'était ces objets mystérieux dans le ciel qui nous ont occupés pendant 3000 ans et qui fait qu'il y a eu quelques victimes. Je vous ai dit combien Giordano Bruno était brûlé vif en place publique à Rome pour avoir prétendu que la Terre n'était pas au centre de l'univers. Il avait raison, mais l'Inquisition était plus forte. Alors maintenant, les noms des planètes. Eh bien, on a donné aux planètes les noms des dieux grecs. Mercure passe devant le Soleil, donc c'est le messager. Vénus, on voit cette planète au moment du coucher du Soleil, au moment du lever du Soleil, au moment le plus romantique, c'est l'étoile du berger. Donc on a donné le nom de la déesse de l'amour, Vénus. Mars, et de couleur légèrement rouge. Ben, c'est le sang, c'est la guerre. On a donné le nom du dieu de la guerre. Jupiter, c'est celle qui est la plus brillante dans le ciel. Donc c'est le chef, c'est le roi, c'est le grand président qui on a donné le nom. Saturne, en grec, c'est Chronos. Alors là, il y a une petite ambiguïté. C'est qu'il y a deux Chronos dans la mythologie grecque. L'un désigne le temps et l'autre désigne une autre divinité. Et souvent, on mélange les deux. Mais en tout cas, Saturne, quand il parcourt le ciel, c'est celui qui se dépasse le plus lentement. Un peu comme si ce temps se déroulait extrêmement lentement, etc. Donc vous voyez que chaque nom a été donné en fonction de la mythologie que nous avions. Il y a cette planète. Alors, cette planète, ensuite, on s'est demandé, mais c'est où tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Et je voudrais quand même vous rappeler que la taille de la Terre, la taille de la Lune et la distance du Soleil avaient été comprises il y a 2400 ans. Dire si aujourd'hui, je demande dans la rue à quelqu'un, comment faites-vous pour mesurer la distance de la Terre au Soleil? Je suis persuadé que tout le monde ne sait pas me répondre, hein, et pas uniquement les enfants. Donc là, c'est pour moi une connaissance de base, et c'est important, parce que ça nous permet de comprendre qui on est. Alors, comment on a compris la taille de la Terre? De manière très simple. C'est que quand vous êtes en Grèce, vous voyez l'hiver, l'été qui se déroule, vous voyez des constellations dans le ciel, et puis il y a des voyageurs qui partaient au sud, partaient en Afrique. Et les voyageurs vous disaient, ah, je vois des constellations que je ne vois pas en Grèce. Je les vois en Égypte, je les vois quand je suis plus bas, etc. Et donc comment comprendre qu'il y a des choses qu'on voit dans le ciel en Grèce, en Afrique, et qu'on ne voit pas ailleurs, plus au nord? Eh bien l'explication, c'est que la Terre est courbe. Alors est-ce que c'est une sphère ou un cylindre? Mais quand vous regardez la Lune, quand vous regardez le Soleil, ça vous donne l'idée d'une sphère. Donc cette idée d'une sphère est venue assez vite, il y a environ 2400-2500 ans. Et il y a quelqu'un, Ératosthène de Sylène, qui, en Égypte, a mesuré la taille de la Terre. C'est très facile. Et pour ça, je dis souvent à mes étudiants, je vous propose de mesurer la taille de la Terre et je vous donne comme seuls outils, je vous donne un bâton, un chameau et un ou une petite camarade selon vos goûts. Alors, à quoi va servir le bâton, la petite camarade ou le chameau? Eh bien, tout simplement, on fait suivant. C'est quand vous êtes à Alexandrie, au nord de l'Égypte, au bord de la Méditerranée, eh bien, vous constatez que les jours sont de durée inégale, comme on le constate en France, à Paris, partout. Mais quand vous êtes plus au sud, le long du Nil, à Sienne, qui est plus au sud, qui est exactement au sud, sur le même méridien, eh bien, vous constatez qu'il arrive, quelquefois, qu'il n'y a pas d'ombre au fond du puits. Ça veut dire que le soleil est au zénith. Et le jour où il n'y a pas d'ombre au fond du puits à Sienne, il y a une ombre du bâton à Alexandrie. Donc, si vous considérez le bâton et son ombre, ça fait un triangle. Et si vous considérez le triangle formé par Sienne, Alexandrie, le centre de la Terre, ça fait un autre triangle. Et sans faire des mathématiques très poussées, ces deux triangles sont semblables, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes angles. Donc si vous êtes capable, le bâton, vous mesurez sa hauteur, la longueur de l'ombre, c'est très facile, avec un double décimètre, vous le faites. Par contre, il vous faut connaître une distance de l'autre triangle, la distance Sienne-Alexandrie. Et c'est là où vous avez besoin du chameau. Et quelles sont les qualités du chameau qui sont utiles? C'est sa régularité et sa fidélité. Je ne parle pas de la fidélité de la petite camarade, je parle de la fidélité du chameau. Hein. C'est-à-dire qu'un chameau marche toujours à la même allure, à un pas constant, et les caravanes sans arrêt parcourent le Nil. Et donc vous prenez un sablier, vous savez combien de temps met un chameau pour faire le tour du stade, et les mesures étaient en stade, et ça c'est une unité de mesure, et bien vous savez combien de temps met le chameau pour le Sienne-Alexandrie. Vous avez donc la distance Sienne-Alexandrie en stade. Et ce qui est très curieux, c'est que la distance qui a été donnée, on ne sait pas si elle a été donnée en stade grec ou en stade égyptien. L'Égypte était une colonie de la Grèce à l'époque. Et le stade égyptien n'est pas tout à fait la même dimension. Si la distance a été donnée en stade grec, ils ont trouvé exactement le bon chiffre. C'est un miracle. Si la distance est en stade égyptien, ils sont dans la barre d'erreur de la mesure. Mais on avait déjà, voyez, il y a 2400 ans, une idée de la taille de la Terre. Nous continuons notre promenade dans le système solaire. C'est une longue histoire, c'est posé de nombreuses questions dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, pendant la Renaissance, et aujourd'hui, nous vivons l'âge d'or de l'exploration de ces planètes. Alors, il faut comprendre que dans l'Antiquité déjà, on avait cette idée que le Soleil était relativement loin, et que le Soleil, du coup, était beaucoup plus gros que la Terre, et que la Terre devait tourner autour du Soleil. C'est Aristarque de Samos qui avait eu cette idée, qui l'avait enseigné à ses élèves. Et c'était très simple. Il considérait le triangle que formaient la Lune, le Soleil et la Terre au moment de la demi-lune. Ce triangle est un triangle rectangle. Nous connaissons un angle, donc. La distance Terre-Lune, nous la connaissons. Je n'en ai parlé la dernière fois. Il restait à mesurer l'angle entre la direction du Soleil et la direction de la Lune au moment de la demi-lune. Si vous connaissez deux angles et un côté dans un triangle, vous connaissez tout le reste, donc la distance du Soleil. Cette mesure, Aristarque de Samos l'a faite il y a 2300 ans. Et il a trouvé à l'époque que le Soleil était environ 20 fois plus loin que la Lune. Comme la Lune est 3 fois et demi plus petite que la Terre, ça voulait dire que le Soleil était plus gros que la Terre. Et il en a conclu de manière raisonnable que le Soleil était gros et la Terre plus petite, et donc c'est le petit qui tournait autour du gros et pas le gros autour du petit. Et donc sa théorie, c'est que la Terre n'est pas immobile au centre de l'univers. D'autres philosophes grecs n'étaient pas du tout d'accord avec cela. Et voyez combien le bien est quelquefois l'ennemi du progrès. Un observateur remarquable qui s'appelait Hipparque, qui a vécu 150 ans plus tard que Aristarque de Samos, donc en moins 150, lui a constaté que la mesure d'Aristarque de Samos était grossière, que les bâtons de l'époque de la Grèce antique ne permettaient pas de mesurer de petits angles. L'angle entre la direction du Soleil et la Lune au moment de la demi-lune fait en fait exactement, nous connaissons aujourd'hui, 3 secondes d'arc. Or, avec des bâtons, on ne peut mesurer que des minutes d'arc, pas des secondes. Donc, Hipparque a dit, Aristarque de Samos a mal travaillé. Hipparque avait raison. Aristarque de Samos ne peut pas mesurer cet angle. Hipparque avait raison. Aristarque de Samos ne peut pas dire que le Soleil est 20 fois plus loin. Hipparque avait raison. Donc, je ne suis pas d'accord avec l'essence d'Aristarque de Samos. Hipparque avait raison. Donc, dit-il, la Terre ne tourne pas autour du Soleil. Hipparque avait tort. Et ceci nous a fait prendre 1500 ans de retard. C'est-à-dire que derrière est arrivé un monsieur qui s'appelait Ptolémée, qui lui était un mathématicien de qualité, qui a fait un modèle épouvantablement compliqué avec une série d'épicycles emboîtés, qui était ce fameux modèle d'épicycle en mettant la Terre au centre. Et disons que Copernic, quand en 1540 et 50, il reprend cette idée que le Soleil est au centre, en fait, il copie complètement Aristarque. D'ailleurs, dans le manuscrit de Copernic, il rend hommage à Aristarque. Et quand il corrige les épreuves, il barre le paragraphe, disant après tout, Aristarque, c'était très ancien, c'est pas la peine de le citer, c'est moi qui ai tout fait. Vous voyez, on peut s'appeler Copernic, on n'en est pas moins homme. Et donc, Copernic n'avait pas compris le rôle de dynamique du Soleil. Il pensait que le Soleil était au centre, parce que de la même manière que dans votre appartement, vous mettez une lampe électrique au centre de la pièce, parce que ça éclaire mieux. Et c'est plus tard, avec Newton et toute la suite, qu'on a compris le rôle d'attraction du Soleil. Mais vous voyez, déjà, on avait quelques connaissances. Alors aujourd'hui, tout bascule, puisqu'on va explorer ces planètes. Alors, à l'époque de Christophe Colomb ou de Magellan, partir en bateau, c'était difficile. On mourait du scorbut, on partait, mais on revenait pas souvent. Beaucoup sont morts dans cette aventure. Aujourd'hui, ce sont des robots qui vont à notre place. Ces robots sont nos yeux et nos oreilles projetés à distance. Et la seule chose un peu pénible en ce qui nous concerne, c'est qu'on doit souvent aller en Californie, où la nourriture est quelquefois difficile, où l'air conditionné est pénible. Mais bon, nous savons que les Américains vont se civiliser, seront des gens qui apprécieront mieux le vin et la bonne nourriture dans quelques siècles. Donc je ne suis pas inquiet. Et donc c'est beaucoup plus confortable. Et là, nous sommes aux premières loges, recevant les images de ces satellites. Et ça, c'est un vrai bonheur. Et pour vous citer une anecdote, quand j'étais membre de la mission de l'équipe d'imagerie de la mission Voyager, nous faisions des paris entre nous pour dire demain, qu'est-ce qu'on va voir? Alors, l'objet du pari était le suivant. Chacun disait, alors on va observer ça, on va trouver ça, on va trouver ça. Et celui qui perdait invitait tous les autres dans le meilleur restaurant de la ville. Eh bien, je peux vous dire que tous les membres de l'équipe ont invité tous les autres. On s'est tous trompés. Autrement dit, la nature a beaucoup plus d'imagination que le moindre astronome. Et c'est cette richesse, diversité qui est absolument extraordinaire. Et d'ailleurs, dans ces rencontres, moi, je me souviens de moments extraordinaires. Il y a 3 populations qui sont présentes là. Il y a des scientifiques. La sonde Voyager avait 10 instruments à bord. Chaque instrument avait une équipe de scientifiques. Nous étions 10 par équipe. Et moi, on m'avait dit, tu viens, mais avec un seul étudiant. T'as droit à un étudiant, pas plus. J'en ai emmené 9. Je leur ai dit, on n'a qu'une chaise, donc vous relayez. Donc on a occupé la chaise 24 heures sur 24, et les autres faisaient un peu pareil. Donc nous étions quelques centaines de scientifiques au total qui examinions tout cela. Il y a des journalistes du monde entier. J'ai dit du monde entier parce que les journalistes de Finlande, de Norvège, de Suède, du Guatemala, d'Australie, étaient tous là. Les seuls qui étaient absents étaient les journalistes de la télévision française. Bon. Et donc, nous assistions à c'était la nouvelle, j'ai envie de dire, du siècle. C'est une nouvelle extraordinaire. On voyait d'autres mondes, les journalistes. Nous avions une conférence de presse tous les matins à 11h. On se mettait d'accord sur ce qu'on allait annoncer. C'était annoncé, c'était publié dans les journaux après. Et il y avait des gens importants. Qu'est-ce que c'est des gens importants? C'est un homme politique qui est candidat aux élections et qui serrant la main d'un scientifique devant une caméra à 3 voix de plus aux élections. C'est un sportif connu. C'est une actrice d'Hollywood. Hollywood était à côté, etc. Et alors, les Américains étant très organisés, ne voulaient pas que ces populations se mélange. Un astronome pourrait faire du mal à une actrice, un journaliste pourrait apprendre des choses qu'il ne faut pas de la part d'un scientifique, etc. Et donc, il y avait des badges. Et il y avait des badges en long pour les uns, en travers pour les autres, en rond pour les suivants. Je me souviens, avec un ami italien, nous avions les trois badges. Et donc, vous imaginez cette comédie humaine où nous passions notre temps à nous mélanger. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous raconter une petite anecdote. Quand j'étais petit, j'allais souvent au cinéma et j'étais très, très amoureux des actrices américaines. Ces femmes extraordinaires, inaccessibles, bien entendu. Et je rêvais. Et 30 ans plus tard, au moment de cette mission, j'ai rencontré ces personnes extraordinaires. Et là, ce fantasme que j'avais vécu quand j'étais jeune, je l'avais en face de moi. Et là c'est difficile. Donc, c'est un conseil que je vous donne. Ne réalisez jamais un fantasme dans votre vie parce que vous le détruisez. C'est-à-dire que ces dames étaient comme moi. Elles avaient vieilli. Elles n'étaient pas maquillées comme au cinéma. Elles n'étaient pas éclairées comme au cinéma. Et donc, je suis ravi d'avoir rencontré, mais je le regrette. J'essaie de retrouver ce fantasme de jeunesse parce qu'il n'y a rien de plus beau que les fantasmes qu'on a tout jeune. Alors, revenons à notre sujet. Vous voyez que je m'éloigne beaucoup. Mais c'était des moments tellement émouvants que c'est un moment de plaisir. Je ne comprends pas que les journaux n'aient pas mis en première page en titre, que les télévisions n'en aient pas fait des annonces extraordinaires. Nous allons en faire des films et dans 5 siècles, 6 siècles, on racontera cette histoire comme si on avait mis une caméra à l'avant de la caravelle de Christophe Colomb ou à l'avant des bateaux de Magellan. Et alors, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve une grande variété. Donc, ce que je vous propose, c'est d'abord de vous dire les planètes. Alors, premièrement, une planète, qu'est-ce que c'est? Alors, si je passais une petite minute à vous en parler, c'est que les astronomes n'ont jamais éprouvé le besoin de définir une planète. Le mot grec qui signifie « c'est un vagabond » a été utilisé, et puis à l'œil nu, nous voyons 5 planètes, que sont Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Nous savons que la Terre est une planète. Les Anglais ont trouvé au XVIIIe siècle Uranus. Les Français ont trouvé au XIXe siècle Neptune. Et puis, les Américains ont annoncé la découverte en 1930 de Pluton. Donc, chaque pays était content. Mais le problème, c'est que quand Pluton a été découvert, on a fait un calcul à l'époque qui donnait une masse de Pluton 5 fois plus grande que celle de la Terre. Donc, c'était une planète, disait-on. Puis, on s'est vite rendu compte que Pluton était tout petit. Ce qui fait que moi, dans les cours que je donnais à l'université, j'ai toujours dit à mes étudiants que Pluton n'était pas une planète, c'était un gros astéroïde. Et donc, du coup, il y avait 8 planètes dans le système solaire. Certains de mes collègues disaient qu'il y en avait 9, bon, incluant Pluton. C'était pas un problème. Or, en 2003, un collègue s'appelle Brown, a découvert un objet supplémentaire, et cet objet était plus gros que Pluton. Et ce collègue dit, si Pluton est une planète, je revendique d'être le découvreur d'une nouvelle planète. Si Pluton n'est pas une planète, je ne revendique rien. Position parfaitement correcte. Donc, les journalistes, les professeurs des écoles, les éditeurs de livres scolaires, les amateurs d'astronomie, le public en général, nous dit, il y a combien de planètes? Alors, quelqu'un comme moi répondait, il y en a 8, j'excluais Pluton. D'autres disaient, il y en a 9, incluant Pluton. Et d'autres disaient, il y en a 10, incluant le nouvel objet. Nouvel objet, d'ailleurs, qu'on a appelé Eris, du nom de la déesse grecque de la discorde, nom bien choisi, en l'occurrence. Et donc, quand il y a le planète? Alors, on n'avait pas l'air ridicule, puisque nous étions censés étudier ces objets et d'être incapables de les définir. Alors, il se trouve que dans ma vie, pendant 30 ans de ma vie, j'étais membre d'un comité de nomenclature. C'est-à-dire qu'on a donné des noms sur les planètes. Au passage, je vous signale qu'on a donné au moins 30 000 noms. Par exemple, sur Vénus, on a donné des milliers de noms de femmes. Comment une femme peut-elle avoir son nom sur Vénus? Eh bien, il faut qu'elle soit morte depuis au moins 3 ans et qu'elle ait fait quelque chose dans sa vie. Je me souviens d'une réunion où, autour de la table, on me donne le nom d'une coréenne. Je dis, mais qui est cette dame? Alors, on me dit, c'est une héroïne coréenne du XIIe siècle. Ah bon? Bon, elle a son cratère sur Vénus. Et puis, un peu plus tard, on me donne le nom d'une dame, une française. Alors, je regarde. C'était la Goulue, vous savez, la fameuse prostituée de Montmartre. Alors les collègues me disent, qui était-ce? Alors je dis, c'était le modèle de Toulouse-Lautrec. Ah, donc la Goulue a son cratère sur Vénus. Et alors, un peu plus tard, on me donne une autre française. Alors je regarde, c'était la Pompadour. Ah, oh, je dis, merveilleux, la Pompadour, une femme intelligente, qui a développé les sciences et les arts, une femme remarquable, etc. Donnons-lui, rendons-lui hommage en donnant un nom sur Vénus. Les collègues américains m'ont dit, pas question. C'est un scandale. Cette femme était la maîtresse du roi. Alors, je dis pas du tout. C'était pas la maîtresse du roi. C'est le roi qui était son amant, ce qui n'a rien à voir. Hein. Donc, vous voyez la discussion. Et la Pompadour est mise en liste d'attente. Alors, ça m'énervait un petit peu. Et un petit peu plus tard, on me donne le nom d'une Américaine. Et on me dit, oh, j'ai qui est-ce? Et on me dit, c'est un poète de 1910, une femme remarquable, etc. Je dis, ah bon, très bien. Et on rajoute, elle était ambassadeur des États-Unis au Venezuela. Ah, je dis, pas question. On a dit, pas d'homme politique, pas de généraux, pas de militaires et pas de religion. Être ambassadeur, c'est être près du pouvoir politique. Je ne l'accepte pas. Bon, maintenant, si vous prenez la Pompadour, je suis prêt à faire une exception. Hein, vous voyez, donc, les négociations. Alors, quant aux planètes, comment les définir? Alors, je me souviens d'une réunion au fin fond d'un fjord en Norvège, où j'ai mis un temps fou pour y aller, où nous avions un ordre du jour chargé, et dans l'ordre du jour, il y avait la définition d'une planète. Eh bien, pendant les 2 jours de la réunion, on n'a parlé que de ça. Nous avions 10 membres du comité, et à la fin de la réunion, nous avons voté. 3 membres, dont moi, on dit qu'il y en avait 8, Trois membres ont dit qu'il y en avait 9, trois membres ont dit qu'il y en avait 10, et un s'est abstenu. Vous voyez, une situation parfaitement claire. Hein. Alors l'Union astronomique internationale, qui réunit l'ensemble des astronomes professionnels, se réunit tous les 3 ans. Et s'est réunie en 2006 à une assemblée générale à Prague. Et à cette occasion, on nomme un nouveau président. Et en l'occurrence, pour la première fois dans l'histoire de l'Union, le nouveau président était une présidente. Une Française qui s'appelle Katia Czarski, l'ancienne commissaire au CEA, qui était une très bonne amie. Et surtout, le fait de nommer une femme, c'est important. Vous savez que dans le monde, entre les hommes et les femmes, les personnes importantes sont les femmes, bien entendu. Les femmes font des bébés, donc elles sont responsables. Les hommes, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, Catherine, présidente, me dit « Mais je ne vais pas me faire embêter tous les jours par des journalistes qui vont m'appeler me demander combien il y a de planètes. Il faut résoudre ce problème. » Alors, je dis « Tu vas faire comment ?» Alors, je dis « Très simple. Je mets en place un comité. » Je leur fais le coup du pape, ils sortent pas tant qu'ils n'ont pas la solution, et je le fais entériner par l'Assemblée Générale. Très bien. Alors on a mis en place un comité. Il y avait 3 Américains, un Anglais, un Japonais et un Français. J'étais le Français de la bande. Alors je commence à dire comment, nous sommes 6, dans ces 6, il y en a 4 de langue anglaise. On va évidemment parler en anglais, on va en plus se réunir dans un pays de langue anglaise. Donc je refuse d'aller aux États-Unis ou en Angleterre. Donc je propose que la réunion ait lieu soit à Paris, soit à Tokyo. Catherine me dit « André, comment ça va mettre la pagaille ? C'est assez compliqué comme ça. » La réunion finit en lieu à Paris, et Paris a une grande qualité, c'est qu'à Paris, il y a de la bonne astronomie, mais il y a aussi de la bonne gastronomie. Et je peux vous dire qu'en menant mes collègues, comment dirais-je, du comité, que le premier jour de la rencontre, le désaccord était total, etc., je peux les emmenant du côté des Halles, dans un restaurant qui ouvre à 7h30 le soir, mais qui ferme à 5h du matin, ce qui donne le temps de dîner tranquillement, et bien après la 3e bouteille de Pomerol, les points de vue se rapprochaient, nous nous comprenions beaucoup mieux. Donc vous voyez, à l'issue d'un bon repas dans un restaurant parisien, on s'est à peu près mis d'accord. Alors je vous raconte pas les détails, ça serait trop long, mais nous avons suggéré 4 conditions, qui étaient une concession qu'on faisait à certains de nos collègues. Je savais que cette 4e condition ne serait jamais acceptée par l'Assemblée Générale. Et donc, finalement, nous avons défini les planètes par 3 conditions. Ces 3 conditions sont, pour être planète, il faut tourner autour du Soleil, première condition. Pour être planète, il faut être rond. Rond, ça veut dire qu'on est de forme sphérique. Hein. Et 3e condition, il faut faire le ménage. Faire le ménage, ça veut dire quoi ? C'est qu'il n'y a pas une Terre à côté de la Terre, il n'y a pas un Jupiter à côté de Jupiter, il n'y a pas Saturne à côté de Saturne. Mais ces planètes sont assez massives pour avoir vidé ce qui est autour et avoir soit des satellites, etc. Et Pluton, ce n'est pas le cas. Il y a des objets semblables près de lui parce que c'est un tout petit corps. Et nous savons qu'il n'y a que 8 planètes dans le système solaire, qu'il ne peut pas y en avoir une 9e. Si je rajoute une 9e planète, soit elle part à l'infini, soit elle tombe dans le Soleil, soit elle heurte une planète existante, soit elle devient un satellite, soit elle s'installe, mais elle chasse une planète existante. Donc j'ai envie de vous dire, le système solaire est plein. Il y a 8 planètes, pas plus. Et pourquoi je tenais à 8 ? C'est que les enfants des écoles peuvent apprendre à 6 ans, 7 ans qu'il y a 8 planètes, ça, ils peuvent le retenir. Et que si on avait accepté une définition plus large, eh bien on leur aurait dit en 2020, il y a 30 planètes, en 2050, il y en a 40, en 2070, il y en a 62. Et donc, on a un nombre fixe. Alors on a du coup défini une 2e catégorie de corps. Ce sont ce qu'on appelle des naines, qui obéissent aux 2 premières conditions. C'est-à-dire, si on tourne autour du Soleil et si on est de forme sphérique, on est naine. Pour l'instant, on en connaît 5, qui sont Cérès, entre Mars et Jupiter, qui sont Oméa, Makemake, Pluton et Eris. Et dans quelques années, on en connaîtra beaucoup d'autres, il y en a beaucoup au-delà de Neptune. Et enfin, il y a une 3e catégorie de corps. Si on obéit qu'à une seule condition sur les 3, on est un petit corps, et bien ce sont les comètes et les astéroïdes. Et pour l'instant, nous en connaissons quelques milliers de milliards. Alors maintenant, qu'y a-t-il dans ces planètes ? Eh bien, ce que je propose, c'est de vous rapidement vous décrire ce que sont les planètes telluriques. Et la prochaine fois, je vous parlerai des planètes géantes. Les planètes telluriques sont des planètes qui ont un sol solide. Il y en a 4. Ce sont Mercure, Vénus, la Terre et Mars. On est loin de l'image de l'Antiquité, on est aussi loin des livres des années 1930. Quand j'étais petit, j'adorais fouiller dans les livres de mes parents. Et dans les dictionnaires de l'époque, dans les encyclopédies de l'époque, vous aviez des dessins, en particulier des dessins de Lucien Rudeau, qui était un homme un peu visionnaire, qui dessinait des paysages de Mars, de Vénus, des planètes, de Jupiter, etc. Et moi, à 7 ans, 8 ans, je rêvais d'aller visiter cela, etc. Et ces dessins étaient poétiques, étaient merveilleux. Pour ça que les enfants, il faut qu'ils lisent, c'est essentiel. Il faut qu'ils rêvent sur un livre, il ne faut pas les coller devant un écran de télé qui leur donne des choses pas forcément sympathiques. Et donc, après avoir rêvé là-dessus, j'ai eu la chance de participer à l'exploration. Eh bien, ce qu'on a vu ne ressemblait en rien. Mercure, pratiquement pas d'atmosphère, un peu de gaz, donc invivable. Quand vous êtes du côté du Soleil, il va faire quelques centaines de degrés. Du côté nuit, il va faire du moins 200. Donc là, il faut prendre une laine ou une crème pour bronzer. Et Vénus, alors Vénus, c'est un enfer. Quand je pense qu'on a donné le nom de la déesse de l'amour à cette planète, l'effet de serre s'est emballé sur Vénus. Au passage, on est soucieux du réchauffement climatique, eh bien, étudier l'histoire thermique de Vénus, c'est pas idiot, pour voir ce qui se passe quand l'effet de serre s'emballe. Il s'est tellement emballé que la température à la surface de Vénus est de 400 degrés, que la pression au sol est de 100 atmosphères, c'est-à-dire un sous-marin est écrasé, et que l'atmosphère est dioxyde de carbone, avec, pour donner un peu de goût, de l'acide chlorhydrique et sulfurique en suspension. Vous voyez, un enfer total. Hein. Et pourtant, ce corps, comme la Terre, a la même taille, la même densité, le même relief. Les montagnes les plus hautes de Vénus sont à peu près 20 km d'écart, avec les profondeurs les plus profondes, comme sur Terre, entre les montagnes les plus élevées et les fonds océaniques les plus profonds. Si Vénus avait l'atmosphère de la Terre, eh bien, il ferait quelques degrés de plus. Par exemple, Paris est à 45 degrés de latitude. Eh bien, à 45 degrés de latitude sur Vénus, quand il fait 1 degré à Paris, il ferait 24-25 degrés. On pourrait y aller en vacances. Mais Vénus n'a pas la même atmosphère. Au passage, je vous signale que si nous supprimons demain la vie sur Terre, je ne veux pas dire les hommes, toute la vie, les animaux, les plantes, etc., l'atmosphère de la Terre deviendra semblable à celle de Vénus. Et si nous mettions sur Vénus l'atmosphère de la Terre, la vie pourrait se développer. En d'autres termes, l'atmosphère n'est pas quelque chose de gratuit qu'on peut utiliser en jeter n'importe quoi en son sein. C'est une partie de nous-mêmes que nous partageons avec tous les autres. Ça devrait pousser un peu la solidarité. L'atmosphère, sans nous, elle n'existerait pas telle qu'elle est. Et sans elle, nous n'existerions pas. Et la Terre, eh bien, nous la connaissons. Et quant à Mars, c'est un tout petit machin. Le climat sur Mars, il y a de cela quelques milliards d'années, était doux et humide. Le ciel était de couleur un peu orangée, des rivières coulaient. Et nous imaginons que la vie a pu démarrer sur Mars dans le passé. C'est ce qu'on recherche. Je vous en reparlerai une prochaine fois. Et donc finalement, ces quatre planètes telluriques sont extrêmement différentes les unes des autres. Mais ces planètes ont été formées avec des débris. Au moment où tout l'hydrogène, tout l'hélium sont partis du voisin du Soleil, ce sont des petits objets dont la dimension, par exemple la Terre, est seulement de 12 000 km de diamètre, alors que Saturne, c'est 120 000 km, que Jupiter, c'est 140 000 km. Des mondes extrêmement variés avec des satellites, avec des anneaux, avec une variété de paysages dont je vais vous reparler. Pour l'instant, ce que nous voyons, c'est une grande diversité. C'est le fait que si nous voulons voyager, nous n'irons pas nous établir sur Mars ou sur Mars, et éventuellement on le pourrait, mais ce n'est pas très simple, et sur Vénus. Mais il y a d'autres endroits, et dans le système solaire et ailleurs, qui sont de merveilleux endroits, de merveilleuses destinations, que nous fréquenterons, comme aujourd'hui, nous fréquentons l'Amérique, l'Australie et autres, ce que ne faisaient pas les Romains, ni les Grecs du passé, qui n'auraient jamais imaginé qu'on se promène en Antarctique et ailleurs. Demain, c'est l'espace, et c'est ça dont il faudrait être conscient. C'est pour ça que les bonnes nouvelles se succèdent actuellement. Nous ne sommes pas en crise, nous sommes dans une période merveilleuse. Dans le futur, ils diront quelle chance ils avaient de vivre au début du 21e siècle. Eh bien, profitons de cette chance. Je vous propose de continuer notre promenade dans le système solaire. L'extérieur du système solaire, qui contient ce qu'on appelle les planètes géantes, est d'une très grande richesse. Voyez un peu de quoi il s'agit. D'abord, comment on l'a exploré? Eh bien, l'exploration spatiale se passe par étapes. Première étape, on survole. On passe à des vitesses bien supérieures à celles d'une balle de fusil, on prend quelques photos, quelques spectres, etc. Ceci a été fait pour toutes les planètes du système solaire. Deuxième étape, on tourne autour. Ceci a été fait pour tous les corps, à l'exception d'Uranus et de Neptune. Troisième étape, on se pose à la surface. Ceci a été fait pour beaucoup de corps, mais pas pour Uranus et Neptune. Et quatrième étape, on se déplace. Soit on met des roues et on a vu des robots se déplacer sur Mars, soit on fait un avion, un ballon, enfin tout ceci a été tenté. Cinquième étape, On prend des échantillons sur place, on les rapporte sur Terre, les analyse en laboratoire terrestre. Ceci a été fait pour la Lune, par exemple. Et enfin, sixième étape, des hommes débarquent en plantant un drapeau. Mais ça, c'est plus nous, ce sont d'autres. Hein, puisque l'entraînement qu'il faut faire pour aller dans ces sondes spatiales, le temps qu'il faut y passer, fait qu'on ne peut pas faire deux choses à la fois. Ou de la science, ou on est astronaute, c'est un choix. Personnellement, je n'en ai pas le courage, mais j'ai de très bons amis qui l'ont fait. Ils me rapportent de superbes photos, superbes informations, et donc je me régale. Donc, dans cette exploration... En ce qui concerne Jupiter, Jupiter a été survolé par des sondes pionnières. Nous sommes là à la fin des années 70. Puis par les sondes Voyager 1 et Voyager 2, 1979 et 1980. Et puis par une sonde Galiléo qui a tourné autour. Ça, c'est la fin des années 90. En ce qui concerne Saturne, nous avons survolé Saturne en 1980 et 81 par les sondes Voyager 1, puis Voyager 2. Et nous nous sommes battus pour Cassini, qui pour moi est une des plus belles missions. La plus belle, c'est Voyager, c'est clair, mais une des plus grandes missions jamais faites par l'homme. Pour vous donner une petite idée, nous sommes réunis à 15 dans une salle à Pasadena, banlieue de Los Angeles, au mois de juin 1980. Et nous avons dit pourquoi on ne ferait pas la promotion d'une mission de retour vers Saturne. Et je me souviens que mes collègues autour de la table disaient « Non, non, ça sera trop compliqué, c'est trop difficile, ça coûtera trop cher. » Et moi, je leur ai sorti un slogan de ma jeunesse qui est « Dans la vie, il suffit de dire qu'une chose est impossible pour qu'elle le devienne. » Et donc, on s'est battus. Et on a mis nos cravates, on a pris nos attachés caisses, on était voir les chefs d'État, et le coût de la mission est de 4 milliards d'euros. Bon, 4 milliards d'euros, ce n'est pas une somme très importante quand on voit ce que certains banquiers de nos jours font avec la même somme. Je pense que nous, on fait beaucoup mieux et que c'est quand même plus utile. Alors, on a été voir les chefs d'État qui nous disaient « Mais attendez, avec ça, on fait des hôpitaux, on fait des autoroutes, on fait... » Non, non, ce qu'on vous propose, c'est beaucoup plus intéressant. Et vous comprenez pourquoi, c'est non seulement l'exploration, mais c'est une manière de financer, évidemment, l'industrie et l'économie. Et finalement, après 10 ans de bataille, nous avons obtenu le feu vert. Et donc l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale américaine, la NASA, ont dit oui. Donc c'est une mission qui est partagée entre 17 pays, les États-Unis d'Amérique et puis des pays européens, avec quelquefois des petites fluctuations. Vous savez, il est des parlements dans certains pays pour lesquels le budget de la recherche est une variable d'ajustement. Ce qui est une stupidité quand on pense à l'échelle de temps de la recherche. Alors à peine la mission a-t-elle été acceptée que le Congrès américain a coupé les crédits. Alors immédiatement, on a fait écrire 17 ambassadeurs européens qui ont envoyé une lettre disant « Comment, scandaleux, vous rompez un accord international ?» Le Congrès a dit « Oh pardon, ils ont remis les crédits. » Un peu plus tard, l'Europe a coupé les crédits. Les États-Unis, comment vous rompez ?» Voilà. Donc je recommande toujours à mes étudiants de faire des choses internationales, jamais du franco-français, de l'américano-américain, parce que, hélas, nous sommes soumis à des parlements qui souvent ne savent pas très bien ce que c'est que la science. Donc cette mission internationale, acceptée en 1990, nous avons sélectionné les scientifiques entre 1990 et 1991. J'ai eu la chance d'être pris dans l'équipe d'imagerie. Il y a là 11 Américains, un Anglais, un Allemand et un Français. Donc nous sommes censés d'abord construire les caméras et ensuite interpréter les données. La sonde a été construite entre 1991 et 1997. Alors moi, je ne suis pas tenu en tournevis, mais nous discutions avec les ingénieurs pour savoir quel type d'engin on met, quel type, alors c'est trop cher, non, c'est pas assez efficace, etc. Finalement, on s'est mis d'accord. La fusée est partie en 1997. Petit problème, parce qu'à l'époque, il n'y avait que deux fusées au monde capables de lancer cette sonde. L'Ariane 5 européenne et la Titan 4B américaine. L'Ariane 5 européenne n'était pas prête et la Titan 4B américaine était expérimentale. Donc on prenait un gros risque. Nous n'avons pas assuré la sonde, c'était trop cher. Donc au cas où la fusée aurait explosé au démarrage, je ne me voyais pas remettre ma cravate, reprendre un attaché-caisse, aller voir chez l'État, t'as pas 4 milliards qui traînent. Donc vous voyez la tension qu'il y a. Mais heureusement pour nous, tout s'est bien passé. On a lancé la sonde le 15 octobre 1997 et on a mis 7 ans pour aller à Saturne. Pourquoi 7 ans? On pourrait aller plus vite. Mais si on y va trop vite, on ne peut pas freiner à l'arrivée. Et donc, on a joué au ping-pong avec les planètes. On a survolé Vénus une première fois, puis Vénus une seconde fois, puis la Terre, puis Jupiter, et enfin, on est arrivé à Saturne. Et à chaque survol de planète, on a fait la petite correction de trajectoire nous permettant d'arriver tout doucement pour se mettre en orbite autour de la planète. La mission devait se terminer en 2008. Ça veut dire, oh, tout marche très bien, on ne pourrait pas continuer. Et là, il y a un petit problème. C'est qu'aux États-Unis, on est bien payé, mais pas longtemps. Et en Europe, on est peu payé, mais pour la vie. Alors, si on continue, ça coûte pas cher aux Européens, puisqu'ils continuent à payer leurs employés, mais les États-Unis, il faut payer des milliers d'ingénieurs très chers. Alors, on a négocié et on a obtenu un sursis jusqu'en 2010. Et on a comme ça vu l'équinoxe de Saturne. Et puis, on s'est dit en 2010, on pourrait pas continuer un peu, ça marche très bien. Et nous venons d'obtenir un sursis jusqu'en 2017. Donc, en ce qui me concerne, je suis financé par l'Agence spatiale française jusqu'à 2 ans après la fin de la mission, donc 2019. Et donc, je cherche un travail pour 2020. Si vous entendez parler quelque chose, vous pouvez écrire à France Culture. Et donc, vous voyez, cette exploration, ça dure 40 ans. C'est l'histoire d'un grand-père qui plante un arbre dont vont profiter ses petits-enfants. Et les missions suivantes vont durer peut-être même des siècles. Et c'est une extraordinaire aventure humaine qui commence au moment de notre génération. Finalement, vous comprenez que la Terre est le berceau de l'humanité. Mais qu'après tout, un enfant n'est pas condamné à vivre tout le temps dans son berceau. Et nous commençons à timidement sortir du berceau par robot interposé. C'est donc le début de cette aventure que nous vivons. Alors qu'est-ce qu'on observe dans ces planètes ? Alors plusieurs choses. D'abord, ces planètes sont des boules de gaz. Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, il n'y a pas de sol solide, ce sont des boules de gaz, hydrogène et d'hélium. Donc si je vous lâchais dedans, bah, vous vous enfonceriez dans la planète pendant très longtemps, jusqu'au moment où vous seriez consumé par la vitesse, qu'il faut que le frottement vous chaufferait, on n'en parlait plus. Il y a même des gens qui ont imaginé des formes de vie où il y a une espèce de méduse qui flotterait dans ces nuages, etc. Ça, c'est de la science-fiction. Hein. Ces boules de gaz ont une caractéristique, c'est qu'il y a une météorologie très, très active. Quand vous regardez une photographie de Saturne et des anneaux, vous voyez les anneaux parce que c'est beau, mais on oublie de regarder la planète. Et cette planète, sans arrêt, il y a des ouragans, il y a des cyclones, il y a des tempêtes. Ça n'arrête pas. Et je peux vous dire que les météorologistes terrestres se régalent à tester leur modèle dans ces conditions extrêmes qui permettent de mieux comprendre ce qui se passe sur Terre. Jupiter, c'est pareil. Neptune et Uranus, c'est aussi des endroits déchaînés. Dites-vous que sur Neptune, il y a des vents qui soufflent à 1800 km/h. Imaginez, les tempêtes en Bretagne, c'est un doux zéphyr à côté. Il y a vraiment une météorologie extraordinaire, des vents très forts. Et quand vous allez à l'intérieur, la pression évidemment augmente. Et il y a un phénomène très étonnant, c'est que Jupiter renvoie dans l'espace deux fois plus d'énergie qu'il n'en reçoit du Soleil, que Saturne renvoie dans l'espace deux fois plus d'énergie qu'il n'en reçoit du Soleil, et que Neptune aussi renvoie dans l'espace plus d'énergie qu'il n'en reçoit du Soleil. Alors on s'est longtemps demandé pourquoi. On a compris en suivant ces planètes. C'est dans le cas de Jupiter. Jupiter a été formé il y a 4,55 milliards d'années, comme la Terre, mais n'est pas totalement refroidi. Former Jupiter, c'est rassembler des corps. Rassembler des corps, c'est ça chauffe, évidemment. Et c'est pas refroidi. C'est un peu comme quand vous mettez une tarte dans le four, vous sortez la tarte du four, il faut un certain temps pour se refroidisse. Je ne vais pas refaire l'histoire de Fernand Reynaud qui disait il faut un certain temps pour que le canon se refroidisse. Et il faut un certain temps pour que Jupiter se refroidisse. Et ce certain temps, c'est en gros 6 milliards d'années. Donc il faut encore 1 milliard pour que Jupiter se refroidisse. Donc il renvoie plus de chaleur dans l'espace qu'il n'en reçoit du Soleil. Quant à Saturne, Saturne est un peu plus petit. Et pourtant, il renvoie de l'énergie. C'est très simple. C'est qu'étant un peu plus froid, à l'intérieur, l'hydrogène et l'hélium ne se mélangent plus. Pour mélanger l'hydrogène et l'hélium, il faut chauffer. Un peu comme vous faites la cuisine. Quand vous chauffez, ça se mélange mieux que quand c'est froid. Et bien, comme ce n'est pas mélangé, comme l'hélium est un peu plus lourd que l'hydrogène, l'hélium percole à travers l'hydrogène. Il y a une espèce de pluie d'hélium dans l'hydrogène. Et cette chute de l'hélium à l'intérieur donne de l'énergie. C'est comme ça que Saturne est un petit peu plus chaud. Le cas d'Uranus, Uranus renvoie à peine un peu plus d'énergie dans l'espace qu'il n'en soit du Soleil. C'est simplement la radioactivité naturelle. Donc là, il n'y a rien d'extraordinaire. Quant à Neptune, la surplus d'énergie est encore discutée. C'est un peu plus technique. Je ne rentrerai pas dans les détails. Mais ce qui est passionnant dans ces objets, la planète est intéressante, bien entendu, c'est l'environnement. Ces planètes ne sont pas isolées. Elles ont des satellites. Moi, quand j'étais petit à l'école, on m'avait dit qu'il y avait 30 satellites dans le système solaire. Quand j'étais nommé à l'université pour enseigner, quand j'étais assistant, je disais aux étudiants qu'il y avait 40 satellites. Quand j'étais nommé professeur, je leur disais qu'il y avait 60 satellites. Quand j'ai eu une promotion, etc., je leur ai dit qu'il y avait 80 satellites. Il y a 5 ans, je leur ai dit qu'il y a 120 satellites. Aujourd'hui, je leur dis qu'il y a beaucoup de satellites. Nous avons dépassé 160. Et chacun de ces objets est un objet avec une croûte solide, comme la Terre, comme Mars, comme Vénus, etc., est absolument passionnant. Et alors là, les découvertes sont extraordinaires. Je vais vous donner un exemple. Dans l'équipe d'imagerie de Voyager, j'étais chargé de compter les cratères. Quand il y a beaucoup de cratères à la surface d'un satellite, ça veut dire que le bombardement qui a été incessant depuis la formation du système a laissé des cicatrices et qu'il n'y a pas eu de géologie. Donc un terrain qui est criblé de cratères est un terrain mort du point de vue géologique. Alors qu'un terrain qui a peu de cratères, c'est le cas de la Terre, est un terrain vivant du point de vue géologique. Donc si vous comptez les cratères, s'il y en a beaucoup, le terrain est vieux. S'il n'y en a pas beaucoup, il est jeune. Et bien, je prends l'exemple de Io, satellite de Jupiter, qui a un peu, à peine plus gros que la Lune. On s'attendait à voir un machin comme la Lune, criblé de cratères. Eh bien, le nombre de cratères est égal à zéro. Vous voyez, je n'étais pas débordé ce jour-là. Et cet objet-là, on a trouvé en survolant cet objet qu'il y avait des volcans en activité. Survoler la Terre à n'importe quel moment, il n'y a pas plein de volcans en activité. Il y en a un de temps en temps, et ça ne dure pas trop longtemps. Là, sur Io, les volcans, on en a trouvé, la première visite, il y avait 7 volcans en activité. Depuis, on en a trouvé 110. Cet objet sans arrêt est en éruption. C'est un objet très étonnant. Qui est un mélange de couleurs jaune, blanc et noir. Quand vous regardez la photo, ça ressemble un peu à une pizza, rien à voir avec la Lune, ou alors une maladie pas avouable, vous voyez, c'est un truc bizarre. Et on a compris finalement que le blanc, c'est de la glace, que le jaune, c'est du soufre, et que le noir, c'est le cratère d'un volcan. Et c'est sans arrêt. Et dans le cratère du volcan, il fait 20 degrés, donc température agréable. Par contre, vous y respirez du soufre, du dioxyde de soufre, ce que personnellement, je respire assez mal. Et à côté du volcan, il y fait moins de 100 degrés. Donc, des conditions extraordinaires, et surtout ce qui est passionnant, c'est qu'il y a là une source d'énergie, due aux perturbations des autres satellites, due à des effets de marée, etc. Et nous avons finalement un phénomène extraordinaire, c'est que les volcans terrestres nous apparaissent maintenant comme un cas particulier d'un phénomène très général, qui est la manière dont un corps évacue la chaleur. Et comprendre tous ces volcans sur Io et sur beaucoup d'autres corps, et en comparant les volcans terrestres, ça nous permet de mieux les comprendre. Vous voyez, à nouveau, on se comprend mieux en quelque sorte. Prenez un autre objet, je vais en citer juste quelques-uns, je ne vais pas vous citer les 160 satellites, ça prendrait un petit peu trop de temps. Prenons Hyperion. C'est un corps tout petit. Ça veut dire qu'il a environ 340 km dans sa plus grande dimension. Il ressemble, quand on voit la photo, à une éponge. Si vous étiez, c'est une éponge que j'ai rapportée de mon dernier voyage à Tahiti. C'est une jolie éponge. Non, c'est pas une éponge. C'est un satellite de forme qui n'est pas sphérique. Quand vous le regardez de travers, ça ressemble à une cacahuète. Et quand vous le regardez par-dessus, ça ressemble à ce machin infâme que mangent les Américains. Là, comment ça s'appelle? Oui, un hamburger. Oui, c'est chose immangeable. Et donc, cette cacahuète hamburger, en quelque sorte, est animée d'un moment chaotique. Chaotique, ça veut dire que chaque jour, la durée de rotation varie. C'est-à-dire un jour, ça tourne en 9 heures, un jour, ça tourne en 17 heures, un jour, en 13 heures. Ça change sans arrêt. Vous voyez, se donner rendez-vous là-bas, ça ne va pas être commode. Hein. Et puis, non seulement la période de rotation varie sans arrêt, mais la direction de l'axe de rotation varie sans arrêt. Vous achetez une maison au sud, le lendemain est au nord. Hein. Donc, vous voyez, c'est très bizarre. Premier exemple de mouvement chaotique dans le système solaire. Vous savez que la théorie du chaos a beaucoup de succès en ce moment. C'est développé en mathématiques et en physique. Et qu'en particulier, les économistes l'utilisent beaucoup. Sur l'économie, on a bien besoin, si on veut comprendre comment ça se passe. Autre objet étonnant, Japet. Japet est un satellite de Saturne. Il a été découvert par Cassini, Jean-Dominique Cassini, en 1670 et quelques. Et Jean-Dominique Cassini a trouvé quelque chose de bizarre. Il voyait Japet d'un côté de Saturne, à gauche, et il ne le voyait pas à droite. Bizarre. Comment un satellite qui fait le tour, on le voit d'un côté et pas de l'autre? Mais comme Jean-Dominique Cassini est un homme intelligent, il a compris que Japet, comme la Lune autour de la Terre, avait une période de rotation égale à sa période de révolution, donc que Japet présentait toujours la même face à la planète, et que donc on voyait Japet quand on voyait sa face arrière, et pas sa face avant. Et donc il a déduit qu'il devait y avoir un côté très brillant, un côté sombre. C'est effectivement ce qu'on a vérifié. Le côté sombre de Japet est plus noir que le noir. Il réfléchit beaucoup moins de lumière que le noir, etc. Il réfléchit quelques pourcents de la lumière seulement. Et le côté brillant est plus blanc que le blanc. Il réfléchit mieux que la glace. Et donc cet objet double, qui souvent a été une vedette dans le roman de science-fiction, ou les auteurs de science-fiction, eh bien cet objet, nous l'avons vu, et c'est très étonnante. À l'équateur, il y a un bourrelet colossal qui fait 15, 20, 30 km de hauteur. Imaginez que vous marchez à l'équateur, vous trouvez une barrière de 20 km de haut. C'est impressionnant. Alors un bourrelet, ça fait que l'objet ressemble à une coquille de noix, vous voyez, en quelque sorte. Alors un bourrelet chez les hommes, on sait d'où ça vient, hein. Mais sur les satellites, c'est plus compliqué à comprendre. Et donc, il y a différentes théories pour interpréter ce que j'appelle. Et alors, il y a un corps passionnant, c'est Titan. Titan est un satellite de Saturne qui avait été découvert à la fin du XVIIe siècle aussi. Et ce Titan, et comment dirais-je, par Huygens, ça avait été découvert. Et Titan, on y avait découvert du méthane à la surface. On dit, ah, il y a une atmosphère. Ah, ça, c'est passionnant. La sonde Voyager l'a survolée, on n'a rien vu de la surface puisque l'atmosphère est opaque. Ah, on y retournait. Et c'était une des raisons d'ailleurs pour laquelle la mission Cassini a été financée. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Vous savez que le méthane sur Terre est en partie produit par les vaches qui se laissent un peu aller. Hein. Mais il y a peu de vaches sur Titan. Donc d'où vient ce méthane? Et fait la chose passionnante, c'est que non seulement il y a du méthane, mais il y a des hydrocarbures. Et donc les hydrocarbures, on est là dans la chimie prébiotique, c'est-à-dire la chimie qui est entre la chimie minérale et la chimie de la vie. Et donc Titan a une atmosphère avec une pression au sol d'1,2 bar, c'est-à-dire pratiquement que l'atmosphère terrestre. Une atmosphère d'azote, donc là, il y a aussi du méthane. Donc Titan, je dirais, est une Terre mise au congélateur. Et donc imaginez qu'on ait mis la Terre, non pas à la température où elle est, mais à des températures de moins de 100 degrés, que se serait-il passé? Et donc, on veut étudier la chimie prébiotique, voir ce qu'il y a sur Titan. Et ce qu'on a trouvé, je passe sur les détails, etc., en combinant nos observations par nos caméras et les images de radar, c'est que Titan est couvert de lacs liquides, de couleur noire, avec des rigages bleus sur un sol brun. Alors, qu'est-ce que c'est? À moins de 100 degrés, ça ne peut pas être de l'eau. Ça serait de la glace. Eh bien, c'est liquide, c'est du méthane liquide. Donc, ces lacs de méthane liquide, de couleur donc de noir à la surface, au gré des saisons, hiver, automne, printemps, été, s'évaporent. Donc, il y a des nuages de méthane au-dessus. Et il y a le cycle du méthane comme il y a le cycle de l'eau sur Terre. Il y a des pluies de méthane et des rivières de méthane qui alimentent les lacs de méthane. Donc ceux qui fonderont une agence de voyage des paysages extraordinaires, où les rivages ne sont pas encore envahis par les promoteurs, où les vues sont merveilleuses. Et alors, le sol est fait de quoi ? Ben, le sol est fait d'eau. Mais à moins de 100 degrés, l'eau, c'est de la glace. Et c'est tellement dur que la glace à moins de 100 degrés est plus dure que la roche sur Terre. Donc vous avez des lacs de méthane alimentés par des rivières de méthane sur un sol de glace d'eau. Et en souterrain, il y a des océans d'eau liquide. C'est intéressant tout ça, avec une chimie passionnante qui doit nous apprendre des choses sur l'origine de la vie. Quand même, quelle surprise ! Autre surprise autour d'Uranus, il y a un satellite qui s'appelle Miranda. Oh, c'est un bonheur ! On a l'impression, vous savez, l'image que j'ai envie de vous donner, imaginez que vous avez un mariage. Le mariage se passe au rez-de-chaussée. On vous dit, va chercher la pièce montée qui est au deuxième étage. Vous courez parce que des invités attendent, vous prenez la pièce montée et vous cassez la figure dans l'escalier. Et votre pièce montée, il y en a partout. Et vous êtes très gêné, vous remontez la pièce montée dans n'importe comment et vous apportez un peu défaite aux mariés. Et bien c'est Miranda. On a l'impression qu'on a tout cassé, qu'on la reconstitue un peu à la hâte. Un score très étonnant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et alors le clou du spectacle avec la mission Voyager, c'était Triton, satellite de Neptune. On s'attendait là aussi à voir un objet comme la Lune. Qu'est-ce qu'on trouve ? Un objet avec des geysers à la surface. Et sur Terre, des geysers, on en voit à Yellowstone, on en voit en Islande. Vous y allez, prenez des photos, vous montrez à vos amis. Dites, oh, c'était beau, ça faisait 20 mètres de haut, ça faisait du bruit, c'était extraordinaire. Regarde-moi ces photos, c'est superbe. Là-bas, les geysers de Triton, ils font 8 km de haut. J'ai envie de vous dire, c'est du geyser, hein. c'est extraordinaire. D'où vient l'énergie ? Donc là aussi, on a une variété, une diversité extraordinaire qui nous montre que finalement, la Terre n'est qu'un cas particulier d'un monde dont on n'imagine même pas tous les contours et que nous commençons tout juste à l'appréhender. Et c'est précisément ce genre de questions que je vous propose de nous poser la prochaine fois. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different.
C'était Dernière nouvelle de l'univers par André Brahic. À la technique, Anil Bosselet. À la réalisation, Angélique Thibault.